C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout. C'est quoi?
Depuis que les restaurants sont fermés, j'ai l'impression qu'on est tout le temps rendu à l'épicerie et on dirait que c'est pas tout le monde qui semble comprendre les règlements de l'épicerie.
Ah non, hein?
Alors ce matin, pour le bien de tous, je vous fais un rappel des règlements de base de l'épicerie.
OK.
Écoute-moi bien, monsieur, madame, quand je fais mon épicerie, je m'attends à avoir le même service que sur un bateau de croisière. Si tu prends un article dans les surgelés puis que t'en veux plus, va les reporter dans les surgelés. Laisse-le pas d'en ranger des bâtantes. Contrairement à toi, il y a des pogos qui vont dégeler dans la boîte. Laisse pas traîner ton panier en plein milieu du stationnement. Je t'annonce qu'ils sont pas encore capables de faire un panier qui se range tout seul. Ils ont de la misère à en faire un avec quatre roues qui avancent dans la même direction. Un panier, c'est comme un pénis. C'est le tien, tu le gardes proche, puis quand t'as fini, tu le ranges. Quand dans l'allée, t'appelles ta chum Nancy parce que tu te rappelles plus de sa salade de patates, ben appelle-la pas sur speaker, on s'en sac de la recette. C'est un téléphone, pas un walkie-talkie. Pas obligé de foutre le bordel dans le frigo pour aller chercher la pinte de lait complètement dans le fond, puis être sûr d'avoir la date d'expiration la plus éloignée. T'es supposé boire ton lait dans la prochaine semaine, pas le léguer à tes petits-enfants. Ça sert à rien de te plaindre aux commis que le bœuf haché était moins cher avant. Je pense pas que le jour, il travaille à temps partiel dans section boucherie, mais que le soir, oh oh, il gère secrètement l'inflation de l'agroalimentaire. Vas-y mollo avec le tartage de fruits. Je vais acheter un avocat, pas une boule de bowling avec trois trous pour mes doigts. Si le spécial a fini hier, le spécial, il a fini hier. C'est plus un spécial, même si tu t'ostines. Tu peux pas arriver avec une circulaire de 1950 puis dire « Hey, je veux une Laurentide à Saint-Saëns. » Quand il y a une file en arrière de toi aux viandes froides, peut-être arrêter de gosser le commis pour qu'il te tranche ça encore plus mince, s'il vous plaît. C'est pas normal de voir à travers une viande froide. Peut-être c'est pas du simulé poulet que tu veux, peut-être c'est juste du cellophane. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, l'environnement. T'es peut-être pas obligé de mettre tes bananes dans un sac en plastique. Oui, mais ça se transporte mieux. Hey, les singes se promènent d'arbre en arbre avec des bananes sans les mettre dans des petits sacs. Je pense que tu vas te rendre à ton char. Par contre, si t'achètes un paquet de poulet puis que tu vois que le jus coule, prends donc le petit sac en plastique. J'aimerais ça déposer mes fruits sur le tapis de la caisse propre et pas avoir l'impression de participer à un sacrifice humain. Les flèches, je comprends qu'il faut les respecter, mais ça nous arrive tous de se tromper de bord à un moment donné. Fait qu'enlève une bûche, le gouvernement t'a pas nommé personnellement comme étant la préposée des gros yeux. OK? Oui. La caisse rapide, je vais le dire lentement, 12 articles et moins, ça veut dire 12 articles et moins, pas 12 neurones et moins. Oh. Fait que va pas à la caisse rapide si t'es pas vite. Si un produit scanne pas à caisse, dis pas à caissière, ça doit être parce qu'il est gratuit. T'es la 72e personne à y faire ce gag-là dans sa journée. Ce qu'il affiche dans son regard, c'est pas le prix de l'article, c'est du dédain. Puis quand la caissière te demande si t'as besoin d'un sac, joue pas la game de « Oh non, merci, j'en ai pas besoin. » Puis qu'à la fin, là, quand t'as payé 500$ d'épicerie, tu dis « Ah oui, finalement, je vais peut-être en prendre une quinzaine. Les sacs coûtent 10 cents. Tu viens pas de trouver une façon de déjouer le casino. » Et finalement, si tu suis tout ça, ça devrait bien aller. Parce que ton petit comportement de chenoute, tu peux te le rentrer dans le Super C. Tout ce que je demande, c'est un peu de savoir-vivre. Pis ça, bonne nouvelle, ça s'apprend. Fait que pas besoin d'engueuler le commis. Ils en ont pas dans le backstore.
Le podcast Debout les comiques.
C'est la première page de la Presse Plus ce matin. Tout un reportage, je vais nommer la journaliste parce qu'elle a fait tout un travail, Marie-Claude Malbeuf, donc, qui explique qu'il y a un fléau de caméras espionnes qui sévit particulièrement à Montréal. On retrouve sur les sites de pornographie souvent des images de gens qui sont aux toilettes d'un café, qui sont dans des cabines d'essayage.
Comme des sections spéciales à leur insu, mettons.
À leur insu, ce que disent les gens, c'est « Ah non, non, c'est des concepts », mais on voit vraiment, parce que la caméra est toujours placée de la même façon, puis qu'on devine que ces gens-là, non.
Sont zéro au courant.
Et c'est ça qui arrive, c'est que le voyeurisme est de plus en plus omniprésent dans notre société. Oui. parce que tu vois le nombre d'affaires, mettons, classées par des mises en accusation. 2005 à 2009, il y en avait 45. Et là, dans les cinq dernières années, il y en a eu 425.
Mike.
Et tabarouette. C'est parce qu'il y a plus de voyeurisme, parce que les gens sont mieux armés. Les caméras espions, là, un nombre inégalé de caméras espions ont été dénoncées aux policiers québécois. Il y a un cas tous les deux jours en moyenne de caméras espions. C'est trois fois plus qu'en 2010.
La technologie aidant, on le devine, la miniaturisation de l'affaire fait que ça...
C'est allez faire un tour sur Amazon, vous allez voir que il y a des caméras qui sont installées dans des vis. En fait, la caméra, c'est une vis. Fait que tu rajoutes une vis dans ton mur, c'est une caméra, mais tout le monde pense que c'est une vis. Ils mettent des caméras dans les brosses de toilette. Il y a une brosse de toilette, tu touches pas à ça quand tu vas chez quelqu'un.
Ben
tu...
non.
Elle a une caméra, fait qu'elle est placée exactement pour que quand tu baisses tes culottes, on voit comme faux ta fourche.
Ben voyons.
Crochet à serviette dans les chaussures, fait que des gens qui marchent qui vont se mettre en dessous de ta jupe avec leurs souliers.
Ouais.
Des ampoules caméra, des stylos, des bouteilles d'eau qui ne sont que des prétextes à caméra, des horloges que t'installes à des endroits stratégiques dans une maison.
Recule de 10 ans puis on y croit pas, c'est comme un mauvais film de science-fiction. Ben, okay,
l'espionnage.
L'espion, ouais, c'est ça, l'espion, il a trouvé ça, il a mis une caméra sur la brosse de toilette.
C'est fou, mais là, 50$, t'as ça, le détecteur, des brosses à dents électriques qui sont munies d'une caméra. T'as mis sur ton comptoir de salle de bain. Des crèmes enrasées et des shampoings sur lesquels il est écrit men, homme. C'est-à-dire que les femmes vont pas toucher à ça. Ça traîne dans une piscine, dans un vestiaire de piscine. Je le veux pas, c'est une vieille affaire. Ça reste là.
Arrête donc.
Ça te filme. Et on le voit,
mais
là.
Mon Dieu, le monde est fou.
Le monde est fou, mais il y a des cas de voyeurisme. Il y a des psychologues qui s'expriment dans le reportage. Ça vaut vraiment la peine que vous ayez le lire dans le détail, mais qui disent que quand ils reçoivent beaucoup dans leur bureau des gens qui sont des voyeurs et ils utilisent vraiment ces affaires-là, et c'est des médecins, des avocats, des policiers, des gens comme vous et moi. Là,
on dirait que Tam t'a mentionné chacun des objets qu'on peut trouver dans une salle de bain. T'sais, rendu là, c'est qu'il n'y a pas de potentiel à ne pas avoir de caméra. T'sais. Si on a tendance à être un peu stressé ou un peu nerveux, là, comment tu fais pour... pour faire attention à ça puis pas te faire pogner, il y a comme pas de solution.
C'est ça, il y a une partie de son reportage où elle dit comment se protéger.
Exact.
Elle dit les cabines d'essayage, d'abord, faut privilégier des cabines d'essayage qui sont, je veux dire, dont le muret va jusqu'au sol.
Okay.
Ça, c'est un exemple. Il faut observer autour de nous tout ce qui a l'air suspect, mais... Quand je te dis qu'une caméra peut être cachée dans une vis, tu sais.
Ben oui.
Mais une chose est sûre, c'est qu'on voit des vidéos puis les cabines d'essayage qui sont vraiment, tu sais, je veux dire, on voit que c'est des boutiques qui sont québécoises. Là, on n'est pas aux États-Unis, là, on est chez nous, là.
Ouais. Ou sinon, tout le temps faire caca sur du YouTube ou du Justin Bieber, parce que s'il met ça sur Internet, faut qu'il paye les droits. Et là, la vidéo est bloquée.
Ça, c'est drôle.
Non, mais moi, je pense.
Quelle bonne idée.
Mais je prête pas d'intention à personne, là, mais j'imagine une chambre d'hôtel.
Mais moi,
j'ai pensé à ça tout de suite quand t'as parlé de ça, t'as mis pour vrai.
Un extincteur de fumée, là. Oui, tu mets une caméra là-dessus. C'est plate, mais c'est ça. Écoute, il faut être méfiant.
Je vais regarder sur Amazon, s'il n'y a pas de détecteur de caméra.
Ah oui, c'est ça que ça prendrait.
Un scanner, là. On scanne la pièce au complet.
Il y a des caméras en studio.
Non, mais celle-là, on est concentré.
Il y en a une là. 2, 3, 4,
on
5.
Est concentré.
Il y a 5 caméras minimum. Ça, c'est celle qu'on sait.
Le podcast Debout les comiques.
On se jase de Marie-Pierre Morin qui a fait l'actualité en fin de semaine. Un article samedi dans la presse au point où ça a tellement fait jaser que tout le monde en parle a décidé de l'ajouter à la liste de ses invités du show d'hier.
Ce qui est arrivé, Martin, c'est que la presse samedi matin a dévoilé un nouvel article avec 5 nouvelles allégations, 5 témoignages de personnes qui disaient avoir subi des agressions physiques, des attouchements sexuels non sollicités et des commentaires racistes de la part de Marie-Pierre Morin entre 2017 et 2020. Ça s'ajoutait à ce qui avait été allégué par Safia Nolin l'été dernier, donc il y a 9 mois environ. Et évidemment, ça s'est partagé partout sur Internet. Puis l'histoire de Marie-Pierre Morin commençait déjà à faire jaser parce que elle avait reçu une nomination pour le gala Artiste, on s'entend, qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, et suite à tout ça, tout le monde en parle, a invité Marie-Pierre Morin. Elle a accepté l'invitation. Et hier, elle était sur le plateau de Guy Lepage pour pouvoir discuter de la situation et discuter de son parcours. Son parcours où elle a avoué qu'elle avait une dépendance excessive à l'alcool, à la consommation. Et que c'est comme si elle vivait un dédoublement de personnalité lorsqu'elle buvait énormément. Okay. C'est là qu'elle regrettait les gestes qu'elle avait posés. Je vous invite à écouter la première réponse qu'elle a donnée à Guy Lepage hier en entrevue à Tout le monde en parle.
Il y a un grand sentiment de honte qui m'habite. Parce qu'évidemment, mon Dieu, je suis pas fière de lire ça, de constater aussi que ce que je lis, c'est des actions ou des mots que j'ai portés. Rendu là, la seule chose que je peux faire, c'est reconnaître que j'ai, par mes comportements, par mes paroles, lésé, blessé des gens.
Et donc, elle a parlé, entre autres, de son retour sur la scène où elle, où elle tourne La Faille, une série qui va être disponible sur le Club Illico et où elle a le premier rôle d'un film qui s'appelle Arlette, qui est dirigé par Marie-Lou Wolfe. Fait que tout ça fait en sorte qu'elle est vraiment de retour sur la scène. Et j'ai curieux de savoir qu'est-ce que vous, vous pensez du retour de Marie-Pierre Morin.
Elle a aussi hier annoncé qu'elle retirait sa candidature au Gala Artiste. Elle est en nomination, mise en nomination par le public. Elle dit, j'aime autant passer mon tour là-dessus. Pis
Elle dit, au début, j'ai rien dit parce que je me dis, ben, c'est le choix du public. C'est
qu'elle
a pris
comme
affaires.
Une petite tape dans le dos de
tout ça, mais là elle fait je sens que ça divise, puis elle veut plus diviser là. Ça c'était assez clair dans la l'article de la presse. Moi je sais pas, moi j'ai entendu l'entrevue hier, puis on dirait que je crois vraiment à la réhabilitation. Je crois que c'est possible d'avoir une deuxième chance dans la vie, là. Puis je le crois fondamentalement. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre plus tard? Marie-Pierre Morin elle-même n'avait pas de réponse à cette question-là quand elle a été questionnée, surtout par rapport aux victimes. Moi, j'ai pas été une victime de Marie-Pierre Morin. C'est difficile pour moi de parler en leur nom. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il faut y croire à la réhabilitation. Sinon, mettons tout le monde en prison, puis on s'en sortira.
J'ai l'impression que c'est un procès moral qu'on fait aussi, puis je suis mal placé dans le sens où je sais pas jusque c'est quoi la limite de l'acceptable. Moi, je pense que c'est les personnes lésées, mais après ça, le regard que le public a sur elles, ça appartient au public.
Je pense que c'est justement ça, c'est le public qui va décider. Est-ce qu'ils vont écouter l'affaire? Est-ce qu'ils vont écouter le film? Je pense que c'est ça notre métier. Hein?
C'est ça qu'Hugo Dumas écrit dans la presse plus ce matin, et c'est qu'il dit le public va décider. Si vous voulez plus Marie-Pierre Morin, ben achetez plus de voitures Buick, puis achetez plus son maquillage, puis écoutez pas ses émissions. T'sais, c'est ça aussi à un moment donné, mais les producteurs ont décidé d'y faire confiance.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Je veux juste préciser qu'on a diminué en rien les gestes qui ont été posés, qui sont allégués pour Marie-Pierre Morin, puis je pense aux personnes qui l'ont subi. On est ben du bord des victimes. Si on en parle ce matin, c'est parce que c'est un phénomène de société.
Tout à fait.
On est là-dedans, ça a fait jaser en fin de semaine, ça a modifié la programmation de Tout le monde en parle. Elle était là hier, Marie-Pierre Morin, pour une première apparition publique live à la télévision. Là.
Première entrevue dans la presse en fin de semaine, samedi matin. Ensuite, ça a tellement fait réagir qu'elle était à Tout le monde en parle hier soir. Tu parles des victimes. Annie Monpetit dit justement sur le Facebook de C'est quoi, elle dit « Moi, je suis pas une fan de Marie-Pierre, mais je crois avoir vu une femme fragile qui a réellement l'air d'avoir changé, qui regrette ses gestes. Ça ne minimise aucunement les frais reprochés, ni comment les victimes se sentent, mais je souhaite qu'elle retrouve son chemin pour pouvoir guérir. » Et tu vois, ça, c'est une des affaires qu'elle a dit hier, Marie-Pierre Morin, en entrevue. Elle a parlé du fait que pour elle, d'aller faire Tout le monde en parle, c'était quelque chose de facile quand même, mais que son vrai travail va être envers les victimes. On écoute Marie-Pierre Morin hier à Tout le monde en parle.
De m'excuser ici, c'est un peu facile. Les amendes honorables, là, tu fais ça un en face de l'autre pour que tu puisses voir.
C'est ça que tu veux faire.
Le chemin que j'ai fait, les choses que j'ai compris, puis que mes excuses, elles seront sincères.
Ça fait. Mais en tout cas,
il y en a qui disaient qu'elle aurait dû faire ses excuses.
Avant privé.
Et après, retomber public, c'est des points qui se valent.
Il y a Alexandre qui est au téléphone. Salut, Alexandre.
Salut, comment ça va?
Ça va bien, Alexandre. T'en penses quoi de tout ça, toi?
Ben, écoute, je suis un peu comme celle qui était sur Facebook, là, que j'ai oublié son nom. Je suis pas nécessairement une fan de ce qu'elle fait de l'artiste en soi, mais à m'emmener, tu sais, je pense qu'elle a déjà payé cher du fait que le monde l'ont bâché, comme je disais dans mon texto aussi, elle peut pas dire ce qu'elle veut de personne, mais nous, monsieur, madame, tout le monde, on se permet de juger, puis de la critiquer, puis de... Puis si c'était une personne non publique, là, ça passerait 100 pieds par-dessus la tête à tout le monde. Pourquoi que on donnerait pas une chance à la personne et non à la personnalité publique.
Mm-hmm.
Pourquoi qu'on ne donnerait pas comme une deuxième chance de se relever?
Parce que, Alexandre, j'ai l'impression qu'à partir du moment où la personne va avoir sa chance, elle va redevenir personnalité publique. T'sais, c'est ça, on dirait que c'est là où les choses se rencontrent. Tu trouves pas?
Oui, mais tu sais, elle a entrepris des actions, elle a été en cure et tout ça. Mmh. Donc, elle se fait pas juste excusez l'expression, là, de se foutre des gens, de ce qu'elle a fait, puis elle passe au-dessus de tout ça. Non, elle a entrepris des...
Ouais, elle est là-dedans. Effectivement, on le sent, cette démarche-là. Alexandre, merci de ton appel. C'est super apprécié. Vous êtes plusieurs à réagir sur la messagerie texte.
Il y a Stéphanie Lavallée qui réagit déjà. Tu sais, elle dit, elle a payé cher. Ouais, elle a payé cher, mais Safia Nolin aussi a payé cher.
C'est ça.
Et moi, je suis d'accord avec elle. Je pense que Safia a payé quand même beaucoup, beaucoup le prix pour quelque chose que,
je veux dire, je pense pas que c'est du contrôle de Marie-Pierre Morin, tu comprends? Tu sais ce que je veux dire?
Je comprends.
Elle paye le prix, Safia Nolin.
Je suis en
même place. C'est le public encore.
Oui, mais elle va quand même réussir à revenir sur la scénette, alors que Safia, je pense qu'elle est encore en pause ou je sais pas.
Mais ça a été vraiment verbalisé hier à Tout le monde en parle. Anaïs Favreau, on posait la question en disant, tu trouves pas que Safia Nolin a payé cher en tabarouette? Puis il y a Marc Cassivi, il y a des gens, des journalistes qui ont écrit des articles sur si, mettons, Marie-Pierre Morin était moche, là, mettons qu'elle n'était pas considérée comme belle dans les standards de la société, est-ce que ça passerait aussi facilement? Est-ce qu'on voudrait passer l'éponge aussi facilement? Puis sur la messagerie texte, c'est Michael de Saint-Hyacinthe qui dit, est-ce qu'on ferait le même pardon pour un gars? C'est un gars qui fait la même chose. C'est un gars, il va, il mord la cuisse d'une
fille.
C'est sûr
qu'on l'a...
Est-ce qu'on ferait le même pardon aussi rapidement?
Puis c'est des hypothèses.
Je pense qu'on peut se poser des questions, dans le fond.
C'est vraiment un débat de société.
Exactement, exactement. Merci tout le monde d'y avoir participé comme ça, de manière quand même civilisée et respectueuse. C'est apprécié, ça, ce ton-là.
Le podcast Debout les comiques.
Oui, allô, c'est quoi?
Bonsoir, monsieur Fabi. C'est Thérèse, votre auditrice préférée qui a une opinion sur tout. Je vous appelle concernant votre sujet du jour. Pour ou contre faire une statue géante de Cocofield au sommet du Mont-Royal?
Ouais. Désolée, madame Thérèse, mais vous parlez pas à Jacques Fabi, là. Vous parlez à Martin Cloutier présentement.
Essaye pas. Je reconnaîtrais la voix de monsieur Fabi n'importe quand. Je l'ai gardé quand il était petit.
Ben voyons donc.
Vous avez
gardé Jacques Fabi?
Oui, puis j'ai aussi donné le bain à Richard. Charles Z. Sirois, puis j'ai allaité Mario Lirette.
Ben voyons!
Je suis la Mary Poppins de la radio.
Ouais, ben ouais.
Donc, oui, mais c'est pas pour ça que je vous appelle, monsieur Net. Imaginez-vous donc que c'est le grand ménage du printemps à la résidence.
Ah.
On est jaloux, nous autres, des dessus d'armoire, parce qu'eux autres, au moins, ils se font laver une fois par année.
C'est drôle et triste.
On en profite pour faire une vente de garage.
Ah oui,
hein? On a vendu un triporteur puis un ventilateur à quelqu'un qui cherchait un tracteur à pelouse pas cher.
Ouais.
Ça marche bien. On a aussi peinturé en or nos vieux dentiers puis on les a vendus comme grills à des rappeurs.
C'est une bonne idée.
C'est bon. Alors, si vous croisez Madame Roberts, le rappeur Big Funky Rhyme, il a les dents à Ginette Cahouette. je le reconnaîtrais, moi, dans un vidéoclip.
Oui.
Je le reconnaîtrais tout de suite.
J'en doute pas.
Il y a ma voisine magicienne qui a fait aussi des affaires d'art.
Sûrement.
C'est parce qu'elle n'arrête pas de vendre sa montre, puis 20 minutes après, elle la fait réapparaître dans sa manche.
Ah, bien joué.
C'est bien joué, certainement. Elle a aussi vendu les cendres de mon mari Marcel à un gars qui avait besoin d'une petite poudre pour ses mains d'haltérophile puis les fesses irritées de son bébé.
Écoutez, madame Thérèse, il y a beaucoup de choses qui me troublent dans ce que vous dites.
Beaucoup d'informations.
Mais la première, mettons, là, c'est... Vous êtes veuve?
Ben voyons, c'est nouveau.
Ben oui. Ah, je vous parle pas de ça.
Ben non.
Non, mais c'est ça, mon mari Marcel est mort noyé après avoir acheté un sidou dans une vente de garage.
Ah oui, hein?
S'il l'avait pris dans un vrai magasin, là, le vendeur, il aurait peut-être dit qu'il avait acheté un skidou. T'es sûr que c'était un pire indice? Vous allez me dire les skis sur le skidou. Mais Marcel, il pensait que c'était pour le ski nautique. Vous comprenez tout ce qui s'est passé dans sa tête?
Oui.
Il faut l'excuser, même s'il est mort. Il faut l'excuser posthume.
Au moins, il va finir comme il a toujours voulu, c'est-à-dire autour d'une poutre ou après une barre en fer.
Oh, vous l'avez connu? Vous savez tout ce qu'il a toujours voulu?
C'est mon idole.
Ah! Oh, ben là, c'est parce que vous étiez dans son club de bowling.
Oui.
Ah, c'est ça. Oh, j'en raconte beaucoup des jeunes qui l'ont rencontré à cette époque-là.
Ah, oui, hein?
Vous étiez dans quelle équipe, vous?
Ben, les Marcelais.
Les Marcelais. Hein? Ah, ça me dit rien, cette équipe-là, mais...
L'équipe à Marcel.
L'équipe... c'était pas le même nom. Mais c'est peut-être mémoire puis ma mémoire.
Ceci dit, merci du partage, Mme Thérèse. Mais là, on va devoir malheureusement couper la conversation et raccrocher...
Correct. Pas pire, Zemia. Une dernière chose, M. Legault, vous avez dit qu'on pouvait se trouver un appartement à Montréal à partir de 500$. Hey, c'est drôle, parce que Camillien Houde avait dit mot pour mot la même chose en 1928. Ouais.
Le podcast Debout les comiques. Je déclare le tribunal populaire ouvert.
J'ai besoin de votre aide pour le tribunal.
Ah oui,
c'est la fête des mères en fin de semaine. Et je me pose tout le temps la question, j'ai deux enfants avec ma conjointe, mais je pense que c'est à ses enfants à lui fournir un cadeau. C'est-à-dire que c'est à la garderie et probablement ou à l'école quand ils seront plus vieux et quand ils travailleront à acheter avec leur propre argent un cadeau à leur mère. Parce que moi, je vais acheter un cadeau à ma mère, qui est Janine, mais ce n'est pas à moi à débourser pour un cadeau de la fête des mères. Alors, c'est la question que je vous pose, Martin. En tant que conjoint, est-ce que tu dois acheter un cadeau de fête des mères à ta conjointe?
Attends, avant de me prononcer, Billy, là... Toi, mettons, tu t'es jamais dit, ça va faire plaisir à mes enfants que j'achète un cadeau à ma conjointe, puis que ce soit de la part de mes enfants. Ça va pris, mettons,
Ils peuvent faire un beau dessin, ils peuvent faire un bricolage.
Ouais.
Il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. C'est ça qui va la toucher. Moi, je pense que j'y achète une friteuse à air. Elle sera pas si contente de la part de ses enfants. Alors que dans des années...
Une friteuse, oui, par exemple.
Mauvais exemple.
Non, mais je peux t'énumérer bien des affaires desquelles elle serait vraiment contente. Là, les bricolages, puis tout, c'est cute. On aime ça.
Oui,
là.
C'est ça qui va l'émouvoir quand elle va les sortir.
Mais on le garde pas longtemps. On fait pas tous les repas avec, là, tu sais.
Mais tu pourrais quand même, à défaut de souligner le fait, tu sais, je comprends que c'est pas ta mère. Par contre, celle que t'aimes est mère. Tu sais, mettons, c'est la fête internationale de toutes les filles qui sont blondes. Ta blonde est quand même blonde. Fait que.
Ouais, mais à l'inverse, à la fête des pères, je m'attends pas à ce qu'elle m'achète quelque chose. Tu sais, je le demande pas. Mes enfants vont me faire un petit dessin, vont me faire un petit cadeau, mais je m'attends pas à ce qu'elle m'achète une cravate ou quelque chose de.
C'est le fun quand même qu'elle souligne le fait que tu sois un père en complicité avec elle, que tu l'aies rendue mère.
Est-ce que ça passe par un cadeau absolument? Est-ce que ça peut pas être un petit mot?
Billy, Billy, pardon, trouve que c'est pas à lui d'acheter un cadeau de fête des mères à sa blonde puisqu'elle n'est pas sa mère. Est-ce que Billy a raison ou non? C'est la question qu'on vous pose. 790, c'est quoi pour nous répondre? Le texto 96.9 ou encore notre page Facebook. C'est bien, bien entamé. Il y a déjà 150 réponses sur la page Facebook.
Moi, je te dis, je suis bien, bien enceinte et pour toutes les complications d'être une femme qui donne un enfant, là, je... Achète des cadeaux à ta blonde.
Oh, ben, à un moment donné, là, tu le veux, cet enfant-là?
Ben oui!
C'est lui qui est à l'intérieur puis qui te donne tout ce trouble-là. C'est à lui d'être récompensé.
On s'en reparle, Billy. Du côté de Dans ta face, Cloutier, on a un gagnant via la messagerie texte.
Oui.
Donc, dans quel pays se trouve Sarajevo? C'est Bosnie que je cherchais, qui était anciennement la Yougoslavie.
Ben oui.
Et c'est Marie-Pierre Poirier qui a eu la bonne réponse.
Bonne
Bravo,
réponse,
Marie-Pierre.
Il y en a plein qui l'ont donné, effectivement.
Ben oui.
On rejoue demain, même heure. Demain matin, c'est avec Guy Jodoin qui va jouer pour vous à Dans ta face, Cloutier.
Qui me traite de cheap, là, mais j'en veux pas plus à la fête des pères, là, des cadeaux. Là. C'est pas à elle à m'acheter ça.
Mais c'est pas parce que t'en veux pas à fête des pères que t'es pas
elle
cheap.
Elle en veut pas.
T'es cheap quand même, Billy, ça enlève rien à ta cheapness.
Mais oui.
C'est pas ma mère!
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Il y a Marie-Josée qui est un peu du bord de Billy. Elle dit, je crois pas que Billy doit obligatoirement acheter un cadeau à sa conjointe. Par contre, je crois que c'est à lui d'organiser quelque chose avec les enfants pour l'occasion.
Ouais.
Un dessin, un bricolage, que les
un
enfants
souper.
Y aident à préparer un gâteau, même le souper, effectivement, pour souligner cette journée spéciale.
J'embarque pas dans... Tu sais, j'ai été sur Amazon et spécial de la fête des mères, une balayeuse Roomba. Tu fais, voyons, c'est pas ça. C'est pas à moi acheter une balayeuse à ma blonde pour la fête des mères. Voyons,
non, mais un petit bijou pour lui dire merci, mon amour, je t'aime.
Pourquoi?
Il y a Martine qui veut se prononcer sur le sujet. Salut, Martine.
Allô, ça va?
Ben, ça va bien, Martine. Toi, tu te positionnes comment? Est-ce que Billy est cheap ou Billy a raison?
Ben, écoute, il y a des zones grises dans la vie. Moi, quand j'étais enceinte à ma fille, elle a maintenant 9 ans, j'ai dit à mon chum, je suis pas ta mère. Arrive-moi pas avec un cadeau ou un collier, puis regarde, je suis pas ta mère. Déjà que je ramasse tes petits bossales, là. c'est correct, mais je suis pas sa mère. Mais elle est rendue maintenant à 9 ans. Il y a 2 ans, elle me dit, maman, moi j'ai fait penser, hey Mimi, c'est la fête des pères, on fait ça un dessin à papa, parce que j'en achète, c'est pas mon père, là. J'achète pas de cadeaux non plus.
Ah ouais.
Maman, elle me dit, maman, moi je veux donner un cadeau à papa. Parfait. OK, viens, je t'emmène dans un magasin, que je n'aimerais pas le nom, mais qui coûte pas cher. Elle a acheté un petit pot décoratif de fleurs.
OK.
Écoute, il était content, là.
Mais toi,
mais ça vient de l'enfant.
Mais c'est ça.
Oui.
Elle a...
C'est ma fille qui l'a choisi. C'est pas moi. Elle dit, maman, moi, je veux y en donner un.
OK.
Mais tu sais, des fois, c'est comme surprenant. J'en veux pas de fleurs, puis de cadeaux, puis de ça. Puis, tu sais, fais-moi un câlin, bonne fête des mères, mon amour. Prends soin de nos enfants.
C'est ça.
Mais c'est pas à toi de m'acheter un cadeau, c'est à ma fille.
Voilà.
J'ai regardé ma fille, je dis.
Mais Martine, ouais. On s'entend que ton chum est mieux d'aller au Dolorama avec ta fille cette semaine, là.
Hey, il y a intérêt à ma fille.
Ça me semblait aussi, là.
On t'embrasse, Martine. Hey, merci.
Surprends-moi toi aussi, là, Minou. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi.
Et comment il s'appelle? Juste qu'on le rappelle.
Ben oui, ben oui.
Daniel Poitras.
Salut, Martine. Il y a Marie-Michel aussi qui veut réagir. Allô, Marie-Michel. Marie-Michel, est-ce que t'es là? Sur la 6, elle est disparue. Elle était
ben
pas
c'est ça, tranquillement, les gens perdent leur opinion puis se rangent de mon côté.
Hey, m'a te le dire, là, sur le Facebook de C'est quoi? C'est la folie furieuse. Et le mot principal qui revient, c'est Billy est un sale cheap. Audrey Lorrain dit cheap, elle a quand même porté tes enfants. Suzy de Montigny dit pas pire cheap, effectivement.
Tu vois, moi, j'ai de
c'est
la peine.
Fête des mères, pas la fête de ta mère. Annie Marcelin, c'est la mère de tes enfants, Billy. Voyons donc, achète un cadeau, go!
On a retrouvé Marie-Michel. Salut, Marie-Michel.
Salut.
Salut.
Marie-Michel, toi, tu te positionnes. T'es pas d'accord avec Billy, c'est ça?
Écoute, j'ai poussé mon enfant de mon corps. J'ai détruit mon corps. Je gère tout ce qui est gouvernement, garderie, bobo, médecin. Il est mieux de m'offrir un petit cadeau au minimum. Sinon, il dort sur le sofa.
Ah oui, hein? Et depuis combien de temps t'es maman, toi, Marie-Michel?
Tu vas rire, 5 mois.
OK, fait que c'est là, là, oh c'est le test.
C'est, hey, cette année, c'est suffisant, là. Marie-Michel, 5 mois, là.
5 mois, là, c'est épuisant, là.
Hey, non, non, juste non. Ça, on n'oublie pas le 9 mois où tu les as oui, l'as porté, cet enfant-là. Là.
C'est pas un appel à l'aide, là. T'es pas en postpartum, là.
Non, non, non.
Non, non, non.
Okay. Hey, Marie-Michel, non, non, non. Marie-Michel, t'es parfaite. Merci beaucoup. Puis bonne fête des mères, Marie-Michel.
Merci.
Bye.
Moi, j'ai de la peine pour tous ces enfants qui, dans leur voiture, apprennent ce matin que leur mère les a pas faites pour l'amour qu'ils vont leur donner,
oh,
mais juste pour avoir une fois par année un bijou ou un cadeau de la part de leur père.
T'es pathétique.
Ce matin, moi, quand vous allez lire cheap là sur Facebook ou sur les textos, c'est juste une façon de dire moi, ce qui est important, c'est l'objet et non pas l'être humain qui est dans ma vie maintenant et qui me remplit d'amour.
C'est quoi la vérité? Présentement, là, je méprise l'incubateur qui t'a gardé en vie. Mais...
Merde! C'est ça la vérité! J'ai aucun respect pour cet incubateur-là!
Je vais peut-être acheter
un cadeau à l'incubateur!
C'est lui!
Le podcast Debout les comiques!
Il y a des millions d'Américains qui sont devenus écolos accidentellement et c'est une tendance actuellement.
Voyons.
Oh oui, le Wall Street Journal donne l'exemple d'un homme de 69 ans qui a une entreprise de gaz et de pétrole dans le Wyoming et le réchauffement climatique pour lui, c'est le cadet de ses soucis. Pourtant, lui, il s'est acheté le nouveau Hummer électrique de General Motors.
Ben oui.
Tranquillement, avec leur pick-up, les 4x4, les constructeurs de voitures électriques ont converti une nouvelle clientèle qui était peu sensible aux arguments écolos, donc qui sont devenus écologistes par accident. Et là, pourquoi ça arrive? Parce que maintenant, on présente les produits verts en mettant plus au-devant les sacrifices que ça va... générer, OK? Comme par exemple, souvent on va dire, ben les voitures électriques, c'est écolo, c'est sûr c'est moins puissant, mais c'est écolo. Ah, les aliments bio. C'est sûr c'est plus cher, mais c'est bio. Ah, les t-shirts en coton recyclé, c'est sûr qu'au bout de 10 lavages, c'est mort, là, mais c'est pas grave, c'est écolo. Hey, le détersif, il va laver moins, tu sais, c'est
mais
sûr.
Mais je pense que technologiquement, mais... on peut mettre de l'avant aussi les qualités du camion qu'il n'y avait pas avant. Il y en a maintenant des qualités.
T'as nommé le mot. C'est la technologie qui permet maintenant, donc, aux compagnies d'introduire introduire le luxe dans le discours écologique. Donc, t'as plus l'impression que tu fais des compromis. Mm-hmm. Tu veux dire, tu t'en vas chercher même, peut-être même plus de luxe. Et, alors que quand on pense écolo, on se dit, ah non, mais le produit,
ça
va être
grano, ça marche pas.
Il est juste écolo. C'est sa seule fonction dans le monde. Alors que non, il peut être plus performant maintenant à cause de ça. Et ça a attiré une nouvelle clientèle. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que les gens qui prennent cette décision-là, comme le monsieur de 69 ans qui s'est acheté le Hummer électrique, ben souvent, il va tellement devenir addict puis il va aimer ça qu'il va acheter d'autres produits écolo. Puis là, je veux dire, la roue va se mettre à tourner puis son comportement, globalement, va changer. Je trouve ça très, très intéressant.
Absolument, je le crois, ça.
Donc, c'est dans la façon de vendre les affaires, quelque part. C'est la façon de marketingment parlant, de vendre le produit écologique que tu peux réussir à aller chercher ces gens-là.
Hey, je sais pas combien de pick-up des F-150. Là. Ouais. Je pense que c'est 3 millions par année qui sont vendus aux États-Unis par année de pick-up neufs. Le jour où il y a un camion électrique équivalent au F-150 puis qui fait la même job, les gars de chantier...
Sans compromis.
Que tu traînes la même charge en arrière.
La puissance va être incroyable.
Ça va être incroyable. Électrique, c'est encore plus fort qu'à essence. Écoute, c'est le chemin qu'ils ont choisi de prendre aussi pour convaincre les utilisateurs, ceux qui en ont besoin pour travailler. On s'en vient avec des produits, la société s'en vient avec des produits. Puis t'as raison, t'as mis, c'est drette le nerf de la guerre. C'est l'utilitaire puis le luxe aussi, t'as raison.
Puis on a pas l'impression de faire un sacrifice. Non, c'est ça. Pourtant, tu sais, c'est une pierre deux coups. On a le produit qu'on veut, mais c'est meilleur pour l'environnement.
Absolument. Ah, mais c'est très intéressant comme phénomène.
Le podcast Debout les comiques.
On parle de droit à la déconnexion. Le gouvernement fédéral a complété la semaine dernière un rapport. Il avait commandé un rapport et cette étude-là s'est terminée, donc, et ça a été remis à la ministre du Travail, Philomena Tassi, ministre du Travail fédéral. Et elle suggère donc vraiment le passage d'un projet de loi, une loi donc qui obligerait les employeurs à déconnecter leurs employés. Et ça existe déjà en Europe. Exemple, la compagnie Volkswagen. Volkswagen, eux autres, là, entre 18h15 et 7h le lendemain matin, c'est impossible d'envoyer un courriel avec la job. Les systèmes, les serveurs sont programmés en fonction que c'est fermé. Et c'est un avocat du travail, Wassim Garzouzi, qui se penche sur ce dossier-là, puis il dit, même si on obligeait les employeurs à payer les heures que vous faites supplémentaires chez vous en disant, ben regarde, si t'es connecté 24 heures, améliore mes conditions salariales, il dit, le problème ne serait pas réglé pour autant, parce que le problème que ça provoque, c'est littéralement des burn-out de déconnexion, des burn-out de travail, le fait qu'on est tout le temps connecté.
C'est du stress sans cesse.
C'est du stress sans cesse. Puis on a beau même nous-mêmes se discipliner comme on veut. Les employés chez Volkswagen en Europe, les serveurs sont fermés. Hein? Et pourtant, il y en a qui contournent.
C'est sûr.
Qui contournent les serveurs pour continuer d'avancer des dossiers. Faut vouloir travailler à la maison, mais c'est bien une gestion d'horaire à ce moment-là. Des fois, il y a peut-être des gens qui sont plus de soir que de matin. Il y a beaucoup de paramètres qui sont changés avec la pandémie à distance. Moi, je vois ma blonde, là, pour vrai, il y a des séances du conseil municipal que ça se passe dans la chambre chez nous. Là. Je veux dire, c'est pas normal dans la vie, c'est pas l'ordre des choses, la pandémie, nécessairement. Là.
J'ai l'impression que ça dépend aussi de la charge de travail que tu as. Est-ce que tu es salarié dans une compagnie où tu es capable à 17 heures de punché out, comme on dit, ou est-ce que tu es travailleur autonome? Je sais que, mettons, si le seul parallèle que je peux faire, c'est ma situation à moi que je connais, là, mais moi, je sais que si je dépose mon téléphone de côté, puis je me dis, OK, pendant les 3 prochaines heures, je déconnecte et je ne travaille pas, après ça, je vais faire de l'anxiété parce que je sais que quand je vais retrouver mon téléphone, là, je vais avoir 48 courriels, 6 messages textes à gérer, des personnes qui sont passées par Messenger parce qu'ils n'ont pas réussi à me rejoindre via des courriels. Fait que là, ils veulent avoir la réponse tout de suite parce qu'eux, ils s'attendent à avoir la réponse immédiatement parce que je réponds vite d'habitude. Fait que des fois, je me dis, je me demande si ça vaut la peine tant que ça de déconnecter. Ça me stresse de me déconnecter. Voyez,
donc, même si tu as l'impression que tu es détaché, tu ne réussis pas complètement à te détacher. C'est faux. C'est une fausse impression de détachement.
Me rattacher à mon téléphone, ben je vais avoir une surcharge de travail.
Je suis d'accord avec toi. Quand j'allais dans le sud à l'époque, quand on était jeune, qu'on avait le droit d'aller là, c'était la même chose. C'est-à-dire que tu finissais avant tes vacances dans un gros rush. Après ça, tu retombais en vacances pendant une semaine. Puis là, tout le long de ta semaine, tu faisais quand je reviens, il faut que je réponde à ça. Là, il y a un meeting, il faut que j'aille voir mes courriels parce que je suis pas capable de les voir ici. Le réseau marche mal. Fait que, après ça, tu retombais dans
plus. T'allais voir trois jours finalement. Après deux jours déconnecté, tu retournes à voir.
Ben, t'avais pas le choix parce que sinon, tu te ramassais avec une pile de choses à devoir régler, des dossiers.
Mais tu pensais que de toutes les régler en une batch, on travaille plus que si on le fait tout le temps plein de fois?
Mais j'ai l'impression, moi en tout cas, ma vie à moi, c'est plus. Je trouve ça moins difficile de régler ça à chaque fois que ça rentre, de le régler petit à petit, d'une manière comme plus relaxe, que de le gérer d'une grosse batch pendant une heure et demie après, mettons, juste quand on fait une sieste, là, par exemple, quand je me réveille, ça me stresse.
Faut que tu regardes, ben oui.
Ah, oui, c'est sûr que, tu sais, si tu t'installes puis que tu dis, je donne un coup, tu sais, je veux dire, ton installation est faite pour plein de petites affaires à régler. Tandis que si tu le fais à chaque fois, écoute, il faudrait quasiment changer nos façons
Le pire, c'est que c'est logique, comment tu le dis, là. Ouais. Mais je te dis, quand je me réveille de ma sieste, c'est automatique. J'ai une boule dans l'estomac, puis là, je me dis, bon, il va falloir que je règle tout ça, puis je le vois comme une montagne.
Ma question, c'est-tu à force de le faire plein de petites fois comme ça tout le temps que t'as pas créé en toi cette petite boule-là? Mais je sais pas, là, j'ai pas de réponse.
Moi
mais
non
je
plus.
Fais, et on n'a pas un métier, je veux dire, on a un métier quand même, somme toute, facile. Tu sais, il y a Caroline, sa messagerie texte, elle dit, je travaille pour la DPJ et on est connecté 24 heures sur 7. On est stressé parce que...
T'as une urgence?
Il y a des urgences. Alors, il y a beaucoup de week-ends où j'avais une urgence, fait que je devais y aller.
Oh là
et l'autre affaire que je vous ai pas encore mentionnée, selon le projet de loi, selon l'étude qui a été faite, c'est surtout les femmes qui sont impactées par les inconvénients du télétravail. C'est surtout les femmes qui font des burn-out en raison du télétravail. C'est surtout des femmes qui sont incapables de se déconnecter parce que ils ont été les premières à rester à la maison parce que souvent, c'était entre guillemets là,
la charge mentale,
plus naturelle, la charge mentale, plus naturelle le petit matin avec les enfants et tout ça, que les hommes sont moins touchés par ce phénomène-là.
Et c'est pour ça que je trouve ça important de leur acheter un cadeau à la fête des mères. Je pense que c'est...
C'est dégueulasse!
Okay. Il faut savoir qu'un petit peu plus tôt, on a débattu là-dessus, puis Billy va pas acheter
ailleurs,
le cadeau.
C'est ça.
C'est dégueulasse.
Sinon, le mijoteur, ça s'en vient dans un instant. Est-ce que le mijoteur a droit à la déconnexion? On vérifiera. J'ai l'impression
que c'est... Il y a des gros livres de cuisine, le mijoteur. Il est correct.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.